Bonsoir à tous. Trois pays en deux jours face à un niveau de tension rarement atteint depuis la fin de la guerre froide. Le président français fait le tour des capitales Moscou, Kiev, Berlin. Emmanuel Macron voit des solutions se dessiner mais reconnaît que la crise ne se résoudra pas en quelques heures. Question sur l'approvisionnement électrique cet hiver en France. Alors que trois nouveaux réacteurs vont être mis à l'arrêt, le gouvernement assouplit son recours au charbon. Dans l'actualité encore, un accusé qui explique son parcours de radicalisation au procès des attentats du 13 novembre, loin du silence observé par d'autres. Qui sont ces anti-vax qui veulent rouler vers Paris, s'inspirant des routiers canadiens qui bloquent Ottawa? Témoignage dans ce journal. Et puis le festival Présence commence ce soir à la Maison de la Radio et de la Musique. Tristan Muraille, magicien du son, est à l'honneur. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, parlons mathématiques ce soir, Hélène. Voilà qu'on se rend compte depuis la réforme du bac que les maths disparues du tronc commun en première et terminale, c'est un vrai souci. Les maths sont désertées par les filles, ça a de vraies conséquences aussi pour les métiers scientifiques. On va donc le revoir, ce tronc commun, probablement, le ministre l'a promis. Est-ce qu'il faut aussi revoir l'enseignement, les méthodes et puis réexpliquer surtout à quoi ça sert, les maths? 01 45 24 7000.
France Inter. Après Moscou, Emmanuel Macron était donc à Kiev aujourd'hui en Ukraine, porter le message du Kremlin, poursuivre la médiation, puis à Berlin en Allemagne ce soir. Rendez-vous à la chancellerie où vous vous trouvez. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Un petit pas a été fait Maxence tout à l'heure côté ukrainien.
En effet, la promesse de respecter les accords de Minsk, promesse fragile, mais premier pas tout de même vers un sommet entre les présidents russes et ukrainiens, sommet qu'Emmanuel Macron veut organiser à Paris. Il est venu rappeler à Kiev l'engagement que Vladimir Poutine a énoncé hier soir.
Il m'a dit qu'il ne serait pas à l'origine d'une escalade. Je pense que ça a son importance. J'ai noté ce matin la confirmation des engagements qui étaient pris, qu'il n'y aurait pas de base fixe ni de déploiement d'équipements sensibles en Biélorussie.
Pour moi, il s'agissait de bloquer le jeu, nous confie-t-il en vol entre deux capitales. Après, il faut se sortir de cette idée qu'on obtient quelque chose par une visite, qu'il y a des miracles.
Les résultats mettront du temps.
Merci encore une fois pour votre soutien à l'Ukraine, lance Volodymyr Zelensky. Cela faisait 23 ans qu'un président français n'avait pas mis les pieds à Kiev. Il joue la carte de l'apaisement. L'Ukraine a assez de patience, c'est de la sagesse, c'est important, non seulement pour l'Ukraine, mais pour toute l'Europe, dit-il. De notre patience dépend l'escalade. Nous ne répondons pas à toutes sortes de provocations. Un mot de travers et ça peut déraper, confirme l'Élysée, qui ne cesse d'insister sur la difficulté de cette bataille diplomatique.
Et vous êtes donc en direct de Berlin, Maxence Lambrecq, ce soir où Emmanuel Macron dîne avec le chancelier allemand qui revient lui-même de Washington où il a parlé de l'Ukraine. Rencontre à laquelle participe aussi le président polonais.
EDF n'est pas sorti de ses déboires avec son parc nucléaire.
L'électricien a lancé une grande inspection pour déceler d'éventuels problèmes de corrosion, comme à Penly et Chaux. L'activité y est suspendue 5 mois de plus. Et 3 nouveaux réacteurs vont donc être mis à l'arrêt à partir de mi-février. Ça va forcément faire baisser la production à un niveau jamais atteint depuis plus de 30 ans. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
Alors comment s'approvisionner? Comment faire face en plein hiver?
D'abord, le gouvernement vient d'assouplir le recours au charbon. C'est valable pour janvier et février, les centrales thermiques peuvent produire plus que la loi énergie-climat ne l'autorise et donc émettre plus de CO2. Le décret est paru dimanche dernier. Deuxièmement, les 11 centrales à gaz permettent de compenser la faiblesse de la production nucléaire. Troisièmement, la France peut acheter du courant à ses voisins. C'est ce qu'elle a fait le mois dernier à des tarifs prohibitifs, environ 300 euros le mégawattheure. Mais par chance, cet hiver est plutôt doux. Pas d'épisode de grand froid et ce mois-ci, grâce à des températures plus clémentes, les exportations d'électricité ont même repris. Selon RTE qui gère l'approvisionnement électrique, la météo de ce mois de février s'annonce encore favorable. Les ménages et les entreprises consomment un peu moins de courant qu'avant la crise sanitaire. Cela dit, pas de quoi lever le niveau de vigilance, affirme RTE, car en cas d'absence de vent dans les éoliennes, en cas de grand froid 3 ou 4 jours de suite et en cas d'arrêt de nouveaux réacteurs, il resterait toujours plusieurs moyens d'éviter un blackout, par exemple l'arrêt momentané des entreprises grosses consommatrices d'énergie.
Delphine Simon, et pendant ce temps, le prix des carburants continue de monter. 1,69€ le litre de gazole, c'est 1,5 centime de plus que la semaine dernière. L'INSEE anticipe une inflation entre 3 et 3,5% dans les prochains mois encore. La hausse des prix de l'énergie que la France importe, mais aussi la consommation des ménages qui ont acheté à l'extérieur de nos frontières, tout cela explique en grande partie le défi déficit commercial record de la France, 84 milliards 700 millions d'euros, l'ombre au tableau d'une économie qui est pourtant bien repartie. Il va encore falloir attendre un peu pour connaître le nouveau protocole sanitaire dans les écoles. Les ministères de l'Éducation et de la Santé recevaient les organisations syndicales aujourd'hui pour discuter des évolutions possibles à la fin des vacances de février. Le Haut Conseil à la Santé publique va faire des recommandations et la décision sera prise ensuite, sans doute en fin de semaine. Des pistes ont déjà été évoquées. Frédéric Marchand est le secrétaire général de l'UNSA Éducation.
Il y a une réflexion autour du passage à 2 autotests au lieu de 3. Il y a aussi des questions autour de la suppression de l'attestation sur l'honneur pour dire qu'on a fait l'autotest, qu'il est négatif. Il y a des réflexions sur la suppression du port du masque, alors suppression en extérieur qui là pourrait peut-être arriver, suppression aussi envisagée peut-être dans un second temps du port du masque en intérieur, alors avec peut-être des choses différentes pour les adultes ou pour les élèves. Pour nous, ça nous semblerait très prématuré que la suppression du port du masque en intérieur arrive maintenant. C'est pas ce qui semble envisagé, donc voilà, on attend de voir aussi ces éléments-là. Il y a aussi le délai, c'est pas forcément la peine de prendre des dates différentes pour le changement du protocole, que peut-être si on pouvait être au retour de l'ensemble des zones, ce serait pas mal, enfin qu'au 7 mars on puisse avoir une date unique, que ça évite des choses aussi qui se passent pour tout le monde pendant les vacances ou pas, enfin voilà. Et derrière, nous on a redit, et ça, on a eu l'engagement que ce soit fait, qu'on rejoue pas avec des communications médiatiques qui viennent mettre tout le monde en tension.
Frédéric Marchand à la sortie de la réunion avec Sonia Princey. Le gouvernement anticipe par ailleurs un rebond de la vaccination d'ici au 15 février, car à cette date, les règles changent. Il faudra avoir fait son rappel dans un délai de 4 mois après une infection ou une deuxième dose, faute de quoi le pass vaccinal sera désactivé. Ça concerne encore entre 4 et 5 millions de personnes, selon le ministère de la Santé. Les antipass vaccinales, pendant ce temps, s'inspirent du blocage des routiers canadiens à Ottawa et sont en train de s'organiser en France. Des convois qui rejoindront Paris en fin de semaine en opération Escargot depuis Nice, Perpignan, Brest ou Quimper. Chantal fait partie de ceux qui organisent le mouvement sur les réseaux sociaux.
C'est surtout un convoi citoyen et puis il porte bien son nom de la liberté. Donc c'est contre toutes les mesures sanitaires et le pass, mais pas que, c'est également pour toutes les revendications du départ des Gilets jaunes, contre l'augmentation du carburant, l'EDF, la vie courante, pour l'augmentation des salaires et pour retrouver une vraie démocratie. Il y a vraiment un grand ras-le-bol général des gens et en fait les Gilets jaunes en visibilité, ça s'était arrêté, mais ils continuaient à travailler quand même et à se réunir, à travailler sur la Constitution, sur différents points ou autres. Beaucoup de citoyens qui... depuis un moment, ne participait plus ni rien. Donc là, c'est vraiment un grand coup de poing, quoi.
Le témoignage de Chantal au téléphone de Sandrine Morin de France Bleu Occitanie, qui partira de Montauban. Près de 300 000 personnes se sont inscrites sur le groupe Facebook de ceux qui organisent notamment le mouvement. Tandis qu'à Ottawa, le maire demande des renforts de police pour déloger les camions qui bloquent le centre-ville depuis 10 jours. Et l'affaire devient politique. Il faut que ça cesse, a réclamé aujourd'hui le Premier ministre Justin Trudeau. Sa place est en jeu au Royaume-Uni. Boris Johnson, toujours englué dans le Partygate, tente de reprendre les choses en main en remaniant son gouvernement. Richard Place, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant en direct de Londres, Richard. Boris Johnson essaie de se protéger un peu et donne des garanties à la partie très à droite de son parti.
Oui, avec un symbole dans ce remaniement, Jacob Rees-Mogg, nommé ministre des opportunités du Brexit. Rees-Mogg est anti-avortement, anti-mariage pour tous, europhobe, climato-sceptique. Ce qu'il aime, c'est le Royaume-Uni rêvé des conservateurs, celui qu'il vit dans son manoir avec ses Bentley de collection, sa femme et ses 6 enfants. Avec eux, il assiste régulièrement à la messe, en latin de préférence. Il a fait fortune dans la finance, un patrimoine estimé à environ 120 millions d'euros. Les Paradise Papers avaient révélé son implication personnelle dans des montages financiers opaques. Cohérent, le nouveau ministre a toujours défendu les paradis fiscaux. Il n'est pas de ceux qui veulent déboulonner les statuts. Il met en garde les élus conservateurs qui pensent renverser Boris Johnson. Il faudrait alors précipiter des élections et donc remettre en jeu leur propre mandat. C'est ce qu'il leur a dit et c'est complètement faux. Il a également qualifié le leader écossais de son propre parti de poids léger quand ce dernier a réclamé la démission de Bojo.
Et Boris Johnson qui est aussi accusé de trumpisation ces derniers jours, Richard, pour avoir attaqué son adversaire travailliste d'une drôle de manière.
Oui, ça commence la semaine dernière à la Chambre des communes, attaqué par Keir Starmer, le leader travailliste, un ancien procureur. Johnson l'accuse de ne pas avoir poursuivi Jimmy Savile à l'époque, un pédophile tristement célèbre ici. Mais Starmer n'avait strictement rien à voir avec cette affaire quand il était au parquet. Le Premier ministre agite là une rumeur qui traîne sur les réseaux sociaux, relayée par l'extrême droite et des complotistes depuis des mois, des années même. Et depuis, Johnson a refusé de retirer ses propos. Résultat, hier soir, Keir Starmer a été pris à partie par des manifestants qui lui reprochaient de protéger les pédophiles. Il a dû être placé sous escorte policière.
Richard Place en direct de Londres. Et puis en bref, cette lettre de Benoît XVI, moins de trois semaines après la publication d'un rapport indépendant l'accusant d'inaction face à des violences sexuelles sur mineurs lorsqu'il était archevêque de Munich. Dans son courrier, le pape émérite demande pardon aux victimes tout en assurant n'avoir jamais couvert de prêtres pédocriminels. Et puis après deux ans de fermeture, la grotte de Lourdes va rouvrir ses portes aux visiteurs vendredi. En temps normal, 3,5 millions de personnes s'y recueillent chaque année.
Va-t-on vers une alliance entre Yannick Jadot et Christiane Taubira ?
En tout cas, les équipes des deux candidats se sont parlé dimanche dernier et pourraient bien se revoir ce soir, Antoine Gignot.
Le point de départ, ce sont les chiffres, les scores dans les sondages toujours trop bas. Une alliance pourrait relancer la campagne en torpillant du même coup la candidature d'Anne Hidalgo, explique un observateur de La Réunion. Reste à savoir qui s'efface. Tous les scénarios sont sur la table, expliquent les proches de Christiane Taubira, pendant que l'équipe de Yannick Jadot s'appuie sur les parrainages des maires pour présenter le candidat écologiste comme la future locomotive de la gauche. Il en enregistre 268 contre 28 seulement pour l'ancienne ministre de la Justice et au micro de France Bleu Armorique, il exclut tout ralliement.
On n'a pas de fébrilité, donc on n'a pas de raison de ne pas répondre aux invitations quand elles sont faites. Mais ce sera une campagne écolo avec un projet fort, cohérent. Et il n'y a pas de problème que chacune et chacun puisse venir dans notre projet. L'important, c'est de gouverner après et d'avoir un grand projet en cohérence.
Un projet dans lequel il y aura de la place pour tout le monde, précise un proche des négociations. Premier ministre, président de l'Assemblée nationale ou d'une future assemblée constituante pour créer la 6e République. La question est au centre d'une autre réunion discrète qui doit avoir lieu ce soir entre Christiane Taubira et plusieurs de ses soutiens.
Antoine Gignot, Nicolas Sarkozy lui prend son temps pour dire qui il soutient. En tout cas, il ne sera pas présent au premier grand meeting dimanche au Zénith de la candidate LR Valérie Pécresse. Et puis Emmanuel Macron, toujours pas candidat, il botte en touche encore, mais dit qu'il va falloir y songer à un moment. Confidence faite à notre journaliste Maxence Lambrecq dans l'avion qui l'emmenait à Kiev aujourd'hui, c'est à lire sur franceinter.fr. Loin de l'actualité française, aujourd'hui et demain, le chef de l'État a tout de même rendu hommage aux victimes de la répression policière de Charonne aujourd'hui. Et c'est une première pour un président français. Il y a 60 ans, en pleine guerre d'Algérie, une manifestation à Paris contre les attentats de l'OAS avait été violemment réprimée, faisant 250 morts, 250 blessés et 9 morts, tous syndiqués CGT. Une cérémonie d'hommage a lieu en ce moment même au métro Charonne, très attendue par les familles des victimes qui attendent depuis des années un geste de l'État. Reportage signé Rémi Brancato.
C'est ici, devant la bouche du métro Charonne, que se disperse peu après 18h le 8 février 62 le rassemblement qui dénonce un énième attentat sanglant de l'OAS.
La police a chargé des deux côtés.
Yves Bernard avait 2 ans à l'époque, son père Jean-Pierre 35, dessinateur au PTT, communiste et militant CGT. Il fuit la charge des brigades spéciales de la police du préfet Maurice Papon.
Il a voulu prendre le métro et il s'est retrouvé à tomber sur les personnes qui étaient déjà tombées devant lui. Et il est mort, étouffé. La rate éclatée par la compression des kilos et des kilos qu'il avait sur lui.
Yves, aujourd'hui 62 ans, a pointé toute sa vie une responsabilité de l'État.
Pour moi, on m'a volé mon père et j'attends la même chose qu'attendaient les familles et les amis des Algériens qui ont été massacrés en octobre 61. La reconnaissance du crime d'État. Les responsables n'ont jamais été poursuivis ni condamnés. C'est un crime d'État couvert par l'État.
Pour lui, la mémoire des morts de Charonne doit trouver toute sa place dans l'histoire de la guerre d'Algérie, un moment capital pour l'historien Gilles Mansereau.
C'est l'événement qui a le plus frappé l'opinion française, montré que l'opinion française basculait dans un sens favorable à l'indépendance de l'Algérie.
5 jours plus tard, les obsèques des militants au Père Lachaise rassemblent des centaines de milliers de personnes. Le préfet de police Suisse y a déposé une gerbe ce matin en hommage aux victimes.
Un reportage signé Rémi Brancato.
Au procès des attentats du 13 novembre, la Cour entendait aujourd'hui Sofiane Ayari, arrêtée en mars 2016 à Bruxelles, en même temps que Salah Abdeslam.
Et c'est une audience comme nulle autre depuis le début des interrogatoires. Sophie Parmentier, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes en direct du Palais de Justice sur l'île de la Cité. Une audience comme nulle autre, car l'accusé revient avec beaucoup de détails sur son parcours et ça contraste avec le silence observé par une partie de ses co-accusés. Il a la parole assez libre.
Oui, et sa parole semble même sincère, au moins en partie. Sofiane Ayari est un accusé au regard très noir, une épaisse barbe brune dépasse de son masque et pendant plus de 5 heures, il répond calmement et poliment à presque toutes les questions. Au début, je me suis dit, je vais pas parler, précise-t-il. Et puis, il évoque cette maman endeuillée qui l'a fait changer d'avis au début du procès. Elle ressemble à ma mère, elle a perdu sa fille, elle voulait savoir ce qu'il s'est passé dans ma tête. Je me suis dit que je lui devais ça. Alors, Sofiane Ayari raconte la révolution dans son pays, la Tunisie, la répression qui le chamboule en 2011, et puis c'est la révolte en Syrie. Il se sent solidaire, il veut aider le peuple syrien, il part à Homs et à Raqqa dans les rangs de l'État islamique. Vous avez combattu, lui demande la Cour. Oui, j'ai pris des décisions impulsives, peut-être j'avais 21 ans. Quand on prend une décision, qu'elle soit bien ou pas bien, faut assumer, dit Ayari. Et il répète ce mot, assumer, reconnaît avoir accepté une mission en Europe, personne m'a forcé. Et quand on lui demande le rôle qu'il devait avoir le 13 novembre et le nom du commanditaire, il ne veut plus rien dire. Un avocat de victime se lève, j'ai des clients dans la salle et ils m'ont quand même demandé de vous faire part de leur soulagement, car vous avez dit votre vérité.
Sophie Parmentier et Martin Troadec à la technique, avant l'interrogatoire demain du principal accusé de ce procès, Salah Abdeslam. Une commission d'enquête après le scandale Orpea, c'est le Sénat qui prend l'initiative et qui se donne pour objectif d'entendre le plus de gestionnaires possibles, qu'ils soient privés ou publics. La fondation Brigitte Bardot, elle va porter plainte contre Kurt Zouma, le footballeur qui joue en équipe de France, filmé en train de frapper son chat. La vidéo postée sur les réseaux sociaux a fait bondir les associations de protection des animaux. Le joueur s'est depuis excusé. Les portes de la maison de la radio et de la musique s'ouvrent ce soir à la 32e édition du festival de création musicale Présence. C'est jusqu'au 13 février. Et cette année, c'est le compositeur Tristan Muraille qui est à l'honneur, explorateur du son. Plusieurs créations seront présentées en première mondiale. Son portrait avec Stéphane Capron.
Premier prix du Conservatoire de Paris en 71, Tristan Muraille fonde l'ensemble L'Itinéraire avec Roger Tessier en 73. Sa musique comprend de grandes pièces orchestrales dont il puise l'inspiration dans l'époque romantique.
Je m'intéresse beaucoup actuellement parce que la musique était devenue à la fin du 19e siècle. C'était une période d'éclosion extraordinaire au niveau orchestral. Il y avait une espèce de grande liberté. Je pense souvent à ça et dans mes œuvres les plus récentes, il y a quelque chose de romantique en fait.
Tristan Muraille a été l'un des premiers compositeur à utiliser l'informatique pour approfondir ses recherches musicales.
Je me souviens d'avoir acheté le premier Macintosh quand il est sorti sur le marché, c'était peut-être en 1984, avec une puissance ridicule par rapport à ce qu'on a aujourd'hui évidemment. Et ça change quand même beaucoup de choses et ça offre de nouvelles possibilités auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Vous savez, la musique, ça, c'est des nombres aussi. Un certain nombre de calculs que l'ordinateur peut faire à votre place, ce qui du coup vous donne plus de liberté pour imaginer davantage de choses.
Parmi les concerts attendus du Festival Présence, il y aura celui avec le pianiste François-Frédéric Guy. On pourra y entendre « Caillou dans l'eau » que Tristan Muraille a composé en réponse au « Reflet dans l'eau » de Debussy.
Et le Festival Présence, c'est jusqu'au 13 février à la Maison de la Radio et de la Musique. La cérémonie des Oscars, ce sera le 27 mars prochain et les nommés sont... La liste complète est à retrouver sur franceinter.fr. En tout cas, avec 12 nominations, The Power of the Dog de Jane Campion arrive en tête des films sélectionnés. Et puis sa plus belle récompense, hein, il l'a sans doute eu aujourd'hui. Première médaille d'or française aux Jeux Olympiques à Pékin pour Quentin Fillon-Maillet en biathlon. La relève de Martin Fourcade est assurée. Et ce n'est peut-être pas encore fini pour le français.
Eh ben, on espère, on croise les doigts pour lui. Hélène Philippe pour le journal. Merci beaucoup Hélène. Bien sûr, à demain. La suite pour nous, c'est le téléphone. Ça, on va parler des mathématiques qui ont disparu du tronc commun. C'est un souci quand même pour les premières et terminales. Disparu parfois, et souvent même des choix des filles. Et ça aussi, c'est un vrai souci. Allez, à vos téléphones au 01 45 24 7000. Un mot de météo, s'il vous plaît.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Et Jean-Pierre Hameau, ça aussi c'est mathématique. Demain, une grande partie du pays sera sous le soleil.
Ah oui, Fabienne,
tant mieux.
Tant mieux. Le soleil va briller généreusement en matinée au sud d'une ligne Nantes-Orléans-Châlons en Champagne. À noter des entrées maritimes autour du golfe du Lion poussées par un bon vent d'autan. En revanche, la matinée sera bien grise au nord de cette ligne, avec en prime de fréquents brouillards entre les pays de Loire et la région parisienne. Et puis des brouillards aussi le long du Val-de-Saône. Attention, ils seront parfois givrants. L'après-midi, les conditions météo seront quasi printanière dans la plupart des régions grâce à un bon ensoleillement. Les éclaircies vont se développer entre les pays de Loire et l'Île-de-France. Prévoyez un peu plus de nébulosité tout de même le long des côtes de la Manche, mais aussi près des côtes vendéennes et charentaises. Les températures seront froides en fin de nuit dans le centre-est voisine de moins 3 degrés. Et les maximales l'après-midi se maintiennent au-dessus des moyennes de saison avec des valeurs comprises entre 11 et 19 degrés. Prévoyez 11 à Dijon, 12 à Paris et Strasbourg, 14 à Lyon, 17 à Bordeaux. Puis on ira jusqu'à 19 voire 20 à Biarritz.
Formidable. Jean-Pierre, merci beaucoup et à très vite.